Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
Sí, sí, Santito de House.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est maintenant l'escale reportage dans Un jour dans le monde, la Grèce confrontée au problème de l'interdiction des sacs plastiques. Sous les radars de l'actualité, Florence Paracuelos, et puis le cinéma à l'international, comme chaque mercredi, avec Eva Bétan, un film suisse de Jacob Berger, un juif pour l'exemple, la difficulté d'affronter une réalité historique, le rapport entre la Suisse et le nazisme. 18h55, Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four. L'affaire Skripal, la crise entre Londres et Moscou, n'est-elle pas un peu surjouée? Le monde est vaste, on n'a qu'une heure, comme dirait Fabienne Sintès, que vous retrouverez demain soir en direct de Moscou, à l'occasion de l'élection présidentielle qui aura lieu dimanche prochain en Russie.
Pierre Veil, Un jour dans le monde.
Tout de suite, le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Dans 10 jours à Washington et dans des centaines d'autres villes américaines, on verra des marches contre les violences par armes à feu. Marche pour nos vies, c'est le titre officiel. Des lycéens et des étudiants sont à l'origine de ces rassemblements. Ils ont commencé aujourd'hui leur mobilisation, un mois, jour pour jour, après la tuerie dans un lycée de Parkland en Floride. Ils ont brièvement quitté leur salle de cours pour dire plus jamais ça. Alors objectif des manifestations dans 10 jours, on attend des centaines de milliers de personnes, convaincre les parlementaires de revoir la législation sur les armes à feu. Sylvain Sipel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, ancien journaliste au Monde et collaborateur de la revue America. Parkland en février, 17 morts. Las Vegas et ses 58 morts en octobre 2017. Orlando, 49 morts dans une boîte gay en 2016. Les 26 victimes de Sandy Hook en 2012. Les 32 étudiants de Virginia Tech en 2007. Malgré ces lourds bilans, rien n'a changé. Est-ce que là, vous pensez que le débat pourrait durer et faire changer la loi, les lois, avec cette mobilisation des lycéens et des étudiants ?
D'abord, il faut dire que les chiffres sont effroyables, hein, parce que 32 ici, 47 là, etc. En 2017, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de morts, mais il y a eu 589 morts et 2082 blessés dans des tueries de masse. Il y en a une tous les 2 jours. On ne parle que lorsqu'elles sont spectaculaires, mais il y en a une tous les 2 jours qui font un mort par-ci, 3 morts par-là. C'est sidérant, c'est un phénomène absolument sidérant. Alors je vais vous dire, moi j'ai couvert Sandy Hook. Sandy Hook, c'était en décembre 2012. Il y avait eu une émotion extraordinaire, c'est dans le Connecticut. Il y avait eu 27 morts, 21 enfants et 6 enseignants. C'était déjà dans une école, comme en Floride. Il y avait eu une émotion sidérante. Obama était au pouvoir, il avait dit « bon, on ne peut pas laisser passer, il faut faire quelque chose ». Il a réellement essayé. Le lobby des armes à feu, qui est un lobby très particulier, puisqu'il regroupe à la fois les fabricants, les commerçants et les acquéreurs
on va en parler
des armes.
La NRA.
La NRA. Le lobby a réussi, comme à chaque fois, avec évidemment le relais du Parti républicain, à empêcher l'adoption d'une loi.
Mais Sylvain Sipel, alors,
juste pour dire, je veux quand même dire que cette fois-ci, et c'est un grand paradoxe, cette fois-ci, ça n'a pas du tout marché ce qu'a essayé de faire Obama, parce que le Parti républicain y a fait totalement opposition. Cette fois-ci, on sent quelque chose de neuf, parce que précisément parce que c'est Trump qui est au pouvoir. Parce que Trump est au pouvoir, parce qu'il a été amplement financé par la NRA, que c'est une notoriété publique. Il a été à la dernière convention de la NRA et il a dit « Je ne vous oublierai jamais ». Eh bien, là, il y a une mobilisation qui se fait, dont on peut imaginer précisément parce qu'on est face à un adversaire et non pas à quelqu'un dont on attend qu'il puisse légiférer. On est dans une bataille beaucoup plus lourde. On peut imaginer, on va voir ce que ça donne le 24. Mais on sent percer quelque chose qu'éventuellement on ne sentait pas les fois précédentes, même après Las Vegas.
Sylvain Sipel, pourquoi ce droit d'avoir librement une arme à feu est à ce point ancré dans l'esprit de tant d'Américains ?
Alors, je vais vous dire, il n'est ancré, on ne le rappellera jamais assez, que dans l'esprit d'une minorité d'Américains. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène extraordinaire, tous les ans, on vend au bas mot, 1 million d'armes en plus chaque année dans une population de 320 millions de personnes. Le nombre de détenteurs d'armes n'augmente pas. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà armés, qui achètent encore et encore et encore des armes. On pourrait faire un exposé très long sur la place de l'arme à feu dans l'histoire américaine et par la conquête de l'Ouest, par tous les clichés qu'on peut dire. Mais effectivement, l'arme à feu en est venue à être le symptôme de la liberté individuelle. C'est-à-dire la détention de l'arme à feu pour une catégorie de gens. Ouais. Donc, qui est clairement minoritaire aux États-Unis en nombre, mais qui est extrêmement active. Cette minorité-là a fait de la détention d'armes l'effigie du droit individuel.
Sylvain Sipel, donc rien ne bouge à cause du puissant lobby des armes à feu, la NRA, National Rifle Association. Pourquoi est-elle si puissante? Qui la finance? Comment elle fonctionne?
C'est un lobby alors, qui associe de particulier, comme je l'ai dit précédemment, qu'il regroupe tous les acteurs du domaine des armes à feu. Les fabricants, les commerçants d'armes et les acquéreurs, qui sont les trois qui ont intérêt à maintenir les choses dans l'état. Il y a des choses qui sont d'abord extraordinairement paradoxales. Par exemple, la NRA s'est opposée à ce que l'on augmente, on améliore les conditions d'acquisition et qu'on introduise, par exemple, la vérification du potentiel terroriste. Oui. Eh bien, ils s'y sont opposés. Et la puissance, elle est essentiellement financière. C'est-à-dire que, pour être élu aux États-Unis, en particulier à la Chambre, toute la Chambre est renouvelée tous les 2 ans. Il y a un certain nombre, donc tous les 2 ans, si vous voulez, un élu, un député, pour faire court, il rentre à la Chambre, il a 2 ans devant lui, ça veut dire qu'il a 6 mois d'activité réelle et 1 an et demi pour trouver de l'argent pour se faire réélire. Il y a des très grands lobbies qui ont une puissance très au-delà. Le lobby financier, on comprend qu'il a une grande puissance. Le lobby de Boeing, c'est déjà plus compliqué parce que c'est une entreprise unique. Il y a de grands... on connaît le fameux lobby pro-israélien, mais maintenant il y a un lobby pro-chinois, etc., etc. Ce sont des lobbies qui financent et qui ont des sommes considérables. Et la NRA est dotée de sommes considérables, se dote de sommes considérables, tout simplement pour acheter des voix au Congrès et pour s'assurer de la fidélité de ses voix en promettant de mettre des moyens pour la réélection.
Et juste d'un mot, quel est le rapport de force au Congrès justement sur ce dossier actuellement?
Actuellement, le rapport est en faveur des républicains qui s'opposent à toute modification.
Les républicains sont opposés à toute modification et les démocrates, eux, seraient favorables à des changements?
Les démocrates sont globalement favorables. La société civile, le principal acteur de la société civile, c'est Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est l'homme qui vraiment met tout son poids, c'est un milliardaire, il met tout son poids dans la bataille pour obtenir enfin qu'on puisse légiférer, non pas forcément pour l'interdire les armes à feu, mais au moins pour faire en sorte qu'on vérifie à qui on les vend et dans quelles conditions.
Alors, comme la législation ne change pas ou très peu, on cherche des solutions. Exemple, des écoles s'équipent de tableaux pare-balles. C'est le cas dans cette bourgade paisible du Maryland, Berlin, un établissement de 500 élèves, de la maternelle au lycée. Il y a un tableau pare-balles par classe, censé protéger les élèves en cas d'intrusion d'un individu armé. Reportage sur place de notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips.
Le tableau mesure 50 cm sur 45. En fait, c'est une plaque de polyéthylène qui ressemble aux autres tableaux accrochés sur les murs de la classe. Mais celui-ci est capable de résister à des balles de fusil d'assaut de type AR-15 ou AK-47. C'est le proviseur Barry Tull qui a eu l'idée d'équiper son établissement il y a 5 ans maintenant, avec ces tableaux qui peuvent servir de bouclier en cas d'attaque. La plaque est assez légère, elle pèse moins de 2 kg et elle est posée négligemment sur un bureau à l'entrée de la classe de Linda Bragg, professeure de mathématiques.
Voilà où elle garde le sien. Si jamais toutes nos autres mesures de sécurité échouent, si quelqu'un parvient à entrer dans l'établissement et s'approche des classes, au moins les professeurs ont quelque chose à attraper et qui pourra protéger les élèves.
Linda, l'enseignante, utilise donc ce tableau chaque jour pour écrire dessus, mais tout en sachant très bien à quoi il peut aussi servir, elle a reçu une formation par un ancien des Secret Service.
On l'utilise pour écrire dessus notre note quotidienne pour les étudiants. Ça ne les rend pas spécialement nerveux, moi non plus, mais on sait que c'est là, en cas de besoin.
Ce tableau de classe, par balle, est fabriqué et commercialisé par une entreprise de la région, Hardwire. Le patron, George Tunis, a eu cette idée après la tuerie de l'université de Virginia Tech, 33 morts, en avril 2007.
C'est très dur, c'est le même matériel que l'autre, mais un peu plus fin. Au départ, on faisait du blindage pour les véhicules de l'armée en Irak et en Afghanistan, et il fallait que ce soit vraiment léger. On avait cette capacité à faire des revêtements par balles très légers. Puis on a vu toutes ces tueries dans les écoles, et on a pensé, pourquoi ne pas mettre ça entre les mains des enseignants? Comme ça, ils auront un outil pour au moins se protéger des balles, peut-être se rapprocher du tireur, parfois il suffit de quelques mètres, et commencer à le désarmer. Maintenant, pour eux, c'est aussi anodin qu'un extincteur, ça fait partie de leur quotidien. Ça ne résout pas tout le problème, mais c'est une partie importante du problème.
Dans cette école de Berlin, la fusillade de Parkland a comme, après chaque drame, interrogé parents et professeurs. Faut-il par exemple armer certains enseignants, comme le suggère le président Trump? Linda Bragg, la professeure de mathématiques, a un avis très tranché là-dessus.
No, thank you.
Non merci, je ne veux pas du tout porter une arme.
Tandis que le proviseur Barry Toole n'est pas complètement opposé à cette idée.
Moi je pense que si quelqu'un passe cette porte avec une arme, eh bien je préfère que l'agresseur ait aussi une arme pointée sur lui.
En attendant, chacune des classes de cette école dispose donc désormais de son tableau pare-balles. La société Hardwire qui le commercialise dit qu'elle a des commandes dans chacun des 50 États américains. Ça coûte environ 1000 dollars. L'entreprise fabrique aussi des plaques blindées à placer dans les sacs à dos des élèves.
Voilà, reportage de Grégory Phillips. Sylvain Sipel, vous connaissez parfaitement les États-Unis. Quand vous entendez ce reportage, vous vous dites quoi? Ce sont des mesures efficaces ou c'est pitoyable?
C'est pitoyable. Je pense que il est très symptomatique de la propagande de la NRA. C'est-à-dire, la NRA dit, il faut prendre des mesures, il faut armer les enseignants, et il faut prendre des mesures pour se protéger, et il faut laisser les ventes libres. Les ventes d'armes libres. Si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est assez pitoyable. Vous savez, l'arme qui fait le plus de mal, l'arme qui a le plus tué sur les 10 dernières années, c'est un fusil mitrailleur, c'est une arme connue, c'est une arme de guerre qui s'appelle AR-15S.
Un fusil d'assaut.
C'est un fusil d'assaut. Ben, y a une chose qui est assez simple. Ce serait par exemple d'interdire les ventes libres d'armes de guerre.
Mais alors, on a eu le sentiment que Donald Trump était prêt à des changements sur les armes à feu, et puis finalement, rien.
Rien, zéro. Si vous voulez, c'est assez étonnant, parce que historiquement, Donald Trump, sur beaucoup de sujets, a eu toutes les positions possibles. Bon, mais dans la période récente, il a adopté les positions vraiment de la droite la plus dure américaine. Bon, et effectivement, après le dernier massacre, on a cru un moment, il a fait une déclaration devant des élus républicains, en disant, on va commencer à réfléchir. Une semaine après, c'était terminé. Et il a refait une déclaration pour dire...
Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La NRA,
à mon avis, la fameuse NRA, si vous voulez, a rappelé à M. Trump quelques-unes de ses obligations, la somme qu'il a perçue pour sa campagne, et puis le fait qu'il n'avait pas envie de perdre les élections en novembre prochain, et que si lui et son parti veulent préserver la possibilité de gagner les élections, eh bien, ils auront bien besoin de la NRA pour les aider, et M. Trump a changé d'avis assez rapidement. Alors, je pense... Par ailleurs, qu'il a changé d'avis, parce qu'en vérité, tout ce qu'il fait dans la période récente consiste à essayer de flatter sa propre base dans la perspective de ses élections. C'est un autre aspect.
Alors, on imagine que certains États peuvent prendre des dispositions particulières pour lutter contre ces ventes libres. Par exemple, l'âge légal serait relevé de 18 à 21 ans. Pas vraiment rassurant. 21, c'est quand même très très jeune pour acheter un fusil d'assaut ou un revolver, ou aussi renforcer les contrôles des antécédents des acheteurs d'armes. Ça existe dans certains États.
Non, mais même la Californie a adopté une législation très stricte sur les ventes d'armes. Si vous voulez, il faut comprendre quelque chose, c'est que les ventes... Vous allez dans les grandes villes américaines, il n'y a personne avec des armes. Vous allez à Los Angeles, vous allez à New York, vous allez à San Francisco, vous allez à Boston, vous ne voyez pas des gens qui se baladent dans les rues avec des armes. Donc, c'est une population très particulière, c'est la population de certains faubourgs, c'est la population des petites villes, et c'est la population des campagnes, qui est une population armée. C'est elle qui est vent debout. Il y a très peu de crimes de cet ordre. New York aujourd'hui est une ville qui, sur le plan de la criminalité, n'est pas une ville particulièrement criminelle. Ni Los Angeles d'ailleurs, si vous voulez. Donc, c'est un phénomène sociologique, le problème des tensions d'armes, et le problème, alors ça c'est un autre aspect des choses, qui est typique des États-Unis, c'est-à-dire que les meurtres de masse commis par des quidam, par des individus lambda, ça c'est un phénomène typiquement américain. Si je prends le cas du Canada,
pourquoi c'est un phénomène typiquement américain?
Parce qu'au Canada, qui est juste à côté, les ventes ne sont pas aussi libres qu'aux États-Unis, mais elles sont beaucoup plus libres qu'en Europe. Il n'y a pas de vente d'armes de guerre. C'est une grande différence. Mais sinon, les armes, en France, on vend pas mal d'armes. Ce sont des armes de chasse en général, si vous voulez. Au Canada, on vend des armes beaucoup plus qu'en France. Enfin, le spectre est beaucoup plus étendu. Mais il y a un phénomène sociologique. C'est-à-dire que ce phénomène des tueries massives n'existe pas. C'est un constat. Il n'existe pas. Le taux de criminalité interne au Canada est équivalent au taux qu'on retrouve dans les pays européens. Donc il y a une question, je dirais.
Ces sortes d'illuminés, de fous furieux, c'est un phénomène typiquement américain.
Typiquement américain.
Mais pourquoi?
Dans les pays occidentaux, alors, il y a eu des livres nombreux et variés là-dessus. Je suis en train de lire un livre qui est un livre très célèbre. Je ne sais pas ce que c'est fini. Très célèbre de la culture, de la politologie américaine, qui s'appelle Le style paranoïaque. C'est un livre écrit en 1965 et qui décrit cette population qui a voté Trump très massivement, qui vit dans une forme de rage et dans la... Son Amérique s'en va. Son Amérique est perdue. Son Amérique se dissout dans une Amérique qui, petit à petit, est de moins en moins blanche. Enfin, on peut détailler les évolutions sociologiques de l'Amérique. Et pour qui, il y a une sorte de dépossession. Et c'est très globalement ce sentiment-là qui est derrière les tueries massives.
Sylvain Sipel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce soir. Merci.
Merci à vous.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Un jour dans le monde à suivre dans la prochaine demi-heure sous les radars de l'actualité. Florence Parrain-Couëllos, reportage en Grèce où on a beaucoup de mal à se débarrasser des sacs plastiques. Et puis le cinéma dans le monde. Eva Bétan, bonsoir Eva.
Bonsoir. Il y a eu un crime nazi en Suisse en 1942, mais plus de 60 ans après, les Suisses n'acceptaient toujours pas qu'on le leur rappelle.
Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir
le
Pierre,
monde
bonsoir
à l'envers.
À tous.
Ce sera à 18h55.
Un peu de poil à gratter sur cette tension entre Londres et Moscou, sur cette affaire de poison et si c'était un jeu de rôle.
À tout à l'heure Jean-Marc. Le troisième album d'Arat Kilo va sortir. C'est un groupe qui aime les synthèses musicales. Le titre de l'album c'est Visions of Selam. Et cet album accueille la voix de la malienne Mamani Keïta et du rappeur américain Mike Ladd. Résultat, l'Afrique, le hip-hop et un peu de reggae. Et voici Chaos Embedded.
Flip it on ya, raise the bar and they move it on ya. Take you off the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather use terrible if we organize, they can get it. Siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. Super rich know exactly what's wrong. They got the goodies and they bought them for a song. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on.
Russian bastards always trying to get at you. But I come hard like a ratchet, spit it on the head because I'm king of disaster. Deadly at the last laughter, I'll be the one on hard surfing because I'm a silver surfer, great matter. Always get it all you suckers scatter when I come hard like mixing in the battle.
Voilà, c'était le troisième album d'Arat Kilo. Il vient de sortir Visions of Salem avec Mamani Keita et le rappeur américain Mike Ladd et le chaos embarqué, Chaos Embedded.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars de l'actualité avec Florence Paracuelos. Florence, on embarque pour les États-Unis d'abord à la rencontre d'un homme qui dénonce depuis presque 30 ans les nouvelles armes chimiques russes, celles-là même qui ont empoisonné l'ancien espion Sergueï Skripal et sa fille la semaine dernière en Angleterre.
Il s'appelle Vir Mirzayanov, il a 83 ans, il vit à Princeton dans le New Jersey depuis 1995 après avoir travaillé des années à l'élaboration des armes chimiques russes et du fameux Novichok.
I am physical care. And I was employed for almost 26 years.
Je suis chimiste et j'ai travaillé pendant 26 ans à l'Institut national de recherche russe pour la chimie et les technologies organiques à Moscou. C'est là-bas qu'il a travaillé sur les fameux Novichok, ces nouveaux agents innervants fabriqués à partir de deux composants inoffensifs quand ils sont pris à part, mortels quand ils sont associés. L'URSS a commencé à les développer dans les années 70. Selon Mirzayanov, un test a même été réalisé grandeur nature de la vapeur larguée par avion sur une région du sud-est russe. C'est un échec. À l'époque, les effets nocifs sont encore trop faibles. Les recherches arriveront à maturité à la fin des années 80 et les effets de ces agents chimiques ont horrifié Vir Mirzayanov. Il dit qu'il a vu la santé de ses collègues se dégrader après avoir été exposé au Novichok, qu'un demi-gramme seulement suffit à tuer. Alors après la chute de l'Union soviétique, il tire la sonnette d'alarme. Il finit par être viré de l'Institut d'État et puis il quitte la Russie pour les États-Unis en 95. Depuis, il n'a de cesse de dire la dangerosité de ces armes chimiques développées secrètement par Moscou. D'ailleurs, selon lui, les Russes sont les seuls à avoir pu empoisonner Sergueï Skripal au Novichok la semaine dernière, à moins que quelqu'un ait utilisé les formules publiées dans son livre State Secrets. Il y a quelques années, il a publié les formules, mais c'est assez improbable que quelqu'un les ait modélisés. Il espère maintenant que ces substances vont être inscrites sur la liste de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Je suis coupable, j'ai participé à cette entreprise criminelle. C'est pour ça que je suis probablement l'ennemi le plus féroce de ces armes chimiques. Ce sont des armes de meurtre massif, de meurtre de masse. Voilà, ça c'est une interview qu'il vient de donner chez lui à Princeton, où ses amis l'implorent d'être prudent pour éviter les représailles des Russes.
Florence, on en a tous rêvé, une voiture volante a été présentée au salon de l'auto de Genève, elle sera commercialisée l'année prochaine.
Les concepteurs de cet engin à la James Bond sont néerlandais, Pierre. Il a trois roues, ce bolide, une forme oblongue. Il s'appelle Liberty. Il tient sur une place de parking. Il roule jusqu'à 160 km/h et se transforme en petit hélicoptère en déployant des pales. Alors là, c'est pas le moteur de la voiture, ce sont les pales qui sortent, c'est le mode volant qui est en train de se mettre en marche. Elle ne passe pas d'une fonction à l'autre, d'un claquement de doigts, cette voiture. Ça veut dire qu'il n'est pas question de se mettre à voler si on est coincé dans un embouteillage. Hélas, il faut un peu de place pour décoller et un peu de place pour atterrir. Son concepteur la voit comme un moyen de transport entre les villes. Vous roulez jusqu'à l'aérodrome de Ballard, par exemple, pas très loin, Pierre, patron de la maison de la radio à Paris. Puis vous volez jusqu'à l'aérodrome de Nantes, Pierre, parce que vous avez une tente à voir là-bas, avant de vous remettre à rouler vers la maison de votre tente sans avoir quitté le siège de Liberty. Encore faudra-t-il avoir déboursé 10 à 20 000 euros pour vous payer une formation de pilote et 300 à 500 000 euros pour vous offrir l'engin lui-même. Ah oui. Ce sera le premier vendu à des particuliers. D'autres prototypes sont en construction. Une alliance entre Audi, Airbus et Italia Design a présenté un prototype de transport collectif volant et autonome au même salon de Genève. Et le cofondateur de Google, Larry Page, fait tester en ce moment des taxis volants sans pilote. Elliott en Nouvelle-Zélande.
Enfin, Florence Paracolos, une pépite dénichée par un internaute fan de Star Wars, Mark Hamill, alias Luke Skywalker, s'en serait bien passé.
Et oui, rien ne se perd, pas même cette séquence de promotion de la guerre des étoiles sur la télé allemande des années 80. Mark Hamill, qui interprète le héros de la saga, est assis sur un croissant de lune qui pendouille dans une improbable combinaison dorée façon ABBA. Et il chante en allemand, langue qu'il ne parle ni ne comprend.
Kommt noch dazu eine Karte, hier meine Karte.
Und das Geld?
C'est monstrueux, c'est un étudiant en cinéma qui a exhumé cette irrésistible vidéo. Réaction amusée de Mark Hamill qui s'est revu en costume doré et chantant en yaourt allemand. À l'époque, je m'étais dit que personne en dehors de l'Allemagne ne verrait jamais ça, mais grâce à Internet, rien ne disparaît jamais.
Florence Paracuelos sous les radars de l'actualité. Merci Florence.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth.
L'escale reportage, les sacs plastiques, une pollution massive pour la planète, un véritable fléau. En France, ils sont interdits depuis l'année dernière, mais en Europe, 100 milliards de sacs plastiques sont encore consommés tous les ans. Un pays détient le record dans ce domaine. La Grèce, elle vient à son tour de les interdire, mais cela pose de sérieux problèmes au quotidien pour les Grecs. Reportage de notre correspondante à Athènes, Angélique Kourounis.
L'usage du cabas à provision n'est pas très répandu en Grèce. Ici, on met toutes ses courses dans des sacs en plastique, généreusement, très généreusement même, distribués dans les supermarchés. Sauf que depuis plus d'un mois, c'est fini. Les sacs en plastique sont interdits pour cause de directives européennes. Et là, il y a un gros problème. Jusqu'à présent, ces sacs plastiques servaient de poubelles d'appoint. Maintenant, que faire ? En fait, ces sacs plastiques existent toujours, mais ils sont payants. Pour l'instant, 4 centimes au supermarché et 10 au duty-free de l'aéroport. Une augmentation est prévue l'année prochaine si l'usage des sacs n'est pas réduit. Madame Maro, retraitée, rencontrée au marché, est très très en colère. Pour elle, qui touche 380 euros de retraite, 4 centimes, c'est 4 centimes.
Tout le monde se plaint, tout le monde, car c'est pas possible par les temps qui courent et tous les prix qui augmentent qu'on nous fasse payer en plus les sacs plastiques. Et puis quoi ? C'est parce qu'on les prend et qu'on les paye qu'on va pas les jeter ? On va en faire quoi ? Se les bouffer ?
Pour le responsable du programme de sensibilisation de l'Organisation de l'environnement WWF Grèce, Andreas Plitharas, même si cela fait très mal au porte-monnaie, c'est une excellente initiative.
Cette mesure est attendue depuis longtemps. Dans d'autres pays de l'Union européenne, elle est appliquée depuis des années. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on progresse rapidement, sachant que la Grèce est la championne européenne en consommation de sacs plastiques par tête d'habitant dans toute l'Union européenne.
Reste tout de même le casse-tête quotidien du papier toilette. L'état des canalisations du pays date de très très longtemps, elles n'ont pas été rénovées et vu l'état des finances publiques, elles ne risquent pas de l'être. Le pire, c'est que le problème se pose dans les anciennes constructions, mais aussi dans les nouvelles. Seule solution, acheter des sacs spéciaux prévus à cet effet, mais en plastique. D'où la colère de Takis, cuisinier d'une cinquantaine d'années.
Le problème en Grèce, c'est que les canalisations sont vétustes et ne fonctionnent pas bien. Du coup, on ne peut pas jeter le papier usagé dans la cuvette. Avant, évidemment, tout le monde utilisait les sacs de supermarché pour le seau prévu à cet effet, à côté des WC. Désormais, il faudra acheter ces sacs. Ça aurait été une bien meilleure idée de construire des canalisations modernes, au lieu de faire peser ça sur le consommateur. En plus, cela n'a aucun effet salutaire, car tous les autres emballages continuent d'être en plastique.
Mais on est en Grèce. Certes, on applique les directives européennes, mais à la grecque. Ces sacs plastiques interdits au supermarché sont encore autorisés sur les marchés pour le plus grand bonheur des vendeurs. Thomas, allemand, vivant depuis 30 ans en Grèce, écologiste dans l'âme, désespère.
Je ne sais pas ce qui m'enrage le plus. Chercher le matin où mettre le papier toilette ou voir que rien ne se fait vraiment pour l'environnement. Ça veut dire quoi rendre payant les sacs en plastique dans les supermarchés et les avoir gratuitement juste en face dans les marchés? C'est de la foutaise. C'est comme le tri sélectif avec des bennes, soi-disant pour le plastique, pour le verre, pour le métal. Et tout le monde fout ses sacs poubelles n'importe où, n'importe comment et personne ne dit rien. Pire, en fin de journée, tu vois arriver les éboueurs et indistinctement embarquer tout joyeusement dans le même véhicule.
Voilà, le gouvernement grec se donne encore quelques années, jusqu'en 2025, pour venir à bout des sacs plastiques dans le pays. Reportage signé Angélique Kourounis à Athènes. Ah, nous sommes en 1973, là, avec une pionnière dans l'histoire des chanteuses rock, et notamment le glam rock. C'était quoi le glam rock? C'était un retour aux sources simples du rock, et puis un look particulièrement provoquant. Qui a oublié Suzy Quatro et ses combinaisons moulantes en cuir, Can the Can? Suzy Quatro, Can the Can.
3, 2, 1, Twitter.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action! Et maintenant, le cinéma venu du monde, comme chaque mercredi, avec Eva Bétan. Eva, vous avez choisi un film suisse. Le film s'appelle Un juif pour l'exemple, film de Jacob Berger. Même titre que le livre de Jacques Chessex. Les Suisses disent Jacques Chessé, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est un grand écrivain suisse. Le livre est paru en 2009, mais ce n'est pas qu'une adaptation du livre, Eva. C'est beaucoup plus complexe que cela.
Je confesse avoir parfois le sentiment que Dieu a quitté le monde qu'il avait inventé, qu'il nous a laissés seuls avec l'horreur de son absence.
Je sais. Pourquoi avoir déterré cette vieille histoire? Vous couvrez une ville entière de votre fiel.
C'est un film à double détente. À double détente, oui, parce qu'il se situe en 1942 et en 2009. Il évoque ce dont parle le livre de Chessex et les réactions au livre. Jacques Chessex raconte dans son livre un événement qui l'a marqué. Il a 8 ans, il vit dans une petite ville de Suisse. Sa famille n'est pas juive. Il est témoin de quelques actes antisémites. Et surtout, il est ami avec la fille du garagiste. Et le garagiste est le chef d'un petit groupe de nazillons, de pro-nazis, qui décident, et le font de manière atroce, de tuer un juif. Comme ça, ils en prennent un dans la ville, ce sera Arthur Bloch, un pour symboliser tous les juifs, un pour l'exemple. La Suisse, c'est un pays neutre, même s'il y a quelques pro-nazis, les Suisses ont voulu effacer ça de leur histoire, il y en a eu, mais quand même, c'est un pays neutre, il n'y avait pas d'occupation allemande, il n'y avait pas de camp de concentration, il y a eu un seul crime nazi en Suisse. Qu'est-ce que veut dire ce 1, Jacob Berger, le réalisateur?
En 1942, des côtes de l'Angleterre aux portes de Moscou, toute l'Europe est brune. Et il y a un petit confetti au milieu de cette Europe qui est neutre, entre guillemets. Donc c'est comme une zone de laboratoire. On peut observer qu'est-ce que c'est que le glissement d'une société normale, une société comme celle dans laquelle nous vivons, où les rapports entre les gens sont plus ou moins civilisés, où l'état de droit, la police, les rapports sont entre guillemets normaux, et comment est-ce qu'on glisse à une société où tout d'un coup le nazisme est possible, l'innommable peut arriver comme ça, survenir d'un coin de rue sans qu'on s'y attende. Un meurtre abominable montre ce que ça veut dire si on pense à ça, multiplié par des millions. Ben, c'est ça, en fait, une Shoah, un holocauste.
Et puis, dans ce film, il y a aussi la suite, l'après-livre. Et ce qu'on voit, et on dit, c'est pas possible, ça n'a pas pu exister. Oui, ça a existé. Jacques Chassès, quand il fait ce livre, c'est en 2009. Plus de 60 ans ont passé. Il espère un débat, une réflexion. Ce qu'il va recevoir est d'une violence qu'on ne peut pas imaginer. Écoutez ce qu'en dit Jacob Berger. Écoutez ce qui est arrivé à Jacques Chassès.
Jacques Chassès se retrouve l'objet d'une haine, d'une colère bien plus grande, finalement, qu'on aurait eu contre les coupables, les assassins. Bon, ils ont tué un juif, ça va, on va pas, vous n'allez pas nous emmerder, on a tué un seul juif, on est, vous n'allez pas commencer à nous faire des histoires, regardez ce que vous, de votre côté, vous avez fait. Eh ben non, l'histoire de ce meurtre, c'est le bacille de l'innommable. Et quand l'écrivain déterre ce bacille et le montre au monde, on veut le tuer. Et il se trouve qu'avec Jacques Chassès, on y arrive, puisque quelques mois après l'apparition du livre, après une espèce de campagne assez horrible qu'il atteint, il meurt en public alors qu'il est interpellé comme ça par quelqu'un qui le conteste, et il s'écroule et il meurt. Et moi, en tant que cinéaste, je regarde ces deux morts, la mort d'un marchand de bétail juif en 1942, la mort d'un grand écrivain en 2009 qui raconte l'histoire de l'assassinat du marchand de bétail juif. Et je me dis, il y a quelque chose de l'ordre de la symétrie qui se joue là. Finalement, on n'est peut-être pas dans une époque qui se répète, mais on est dans une époque qui ricochette.
On rappelle le titre de ce film,
oui,
Eva.
Je suis tellement perturbée parce qu'il dit « un juif pour l'exemple ».
Eva, on sait que vous êtes une fan de cinéma iranien, coréen et aussi israélien, ça tombe bien.
J'ai bien raison.
Ouais, il y a un festival de cinéma israélien en ce moment à Paris.
Oui, et c'est jusqu'au 20 mars. Et nombre de films seront distribués en France, vous en laissant de les voir. Je peux déjà vous recommander Foxtrot de Samuel Maoz, Lion d'argent à Venise, qui a fait l'ouverture hier et il repasse deux fois, demain et vendredi. Le point de départ, deux soldats viennent dans une famille leur annoncer que leur fils qui fait service militaire est mort. Vous verrez le traitement qui est fait de ça, vous verrez comment vous passez d'eux. La surprise, de la stupeur, de l'émotion à la réflexion politique. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que la ministre de la Culture a détesté, mais elle a fait une véritable campagne contre ce film. Et ce qui est incroyable, parce que le cinéma israélien a toujours été un cinéma critique. Alors, il ne parle pas que de la guerre, le cinéma israélien. J'ai noté, je ne l'ai pas vu celui-là, Olier, mais qui a l'air d'être une comédie, un père qui a des difficultés financières, vend de l'air béni à des touristes religieux. Il y aura aussi le film d'Eran Riklis. Eran Riklis, vous savez, c'est lui qui avait fait les Citronniers. Il y a des documentaires, il y aura aussi une série télé Fauda, la deuxième saison, série très célèbre. On se souvient que Homeland était tiré de Atofim, qui était une série israélienne. Voilà, donc ça se passe à Paris et vraiment le cinéma israélien, c'est passionnant.
Voilà, le cinéma venu de l'étranger, c'était Eva Bétan. Merci Eva et à mercredi prochain.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
Le monde à l'envers avec Jean-Marc Four. Jean-Marc, le torchon brûle entre Londres et Moscou dans l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-agent double à Salisbury dans le sud de l'Angleterre. Dans un instant, dans le journal de 19h, Sébastien Paou va nous donner les derniers développements avec notamment l'annonce de l'expulsion de 23 diplomates russes de Grande-Bretagne. Mais avec vous, Jean-Marc, on va se poser une question. Est-ce que cette crise ne serait pas un peu surjoué?
Ah, la belle histoire que voilà. Un scénario de guerre froide à la John le Carré, une crise diplomatique, le tout sur fond de Brexit d'un côté, d'élections russes de l'autre. Les ingrédients sont parfaits pour faire sonner le clairon. Crise majeure entre deux grandes puissances. Et là, je dis pause. C'est peut-être un peu plus compliqué. D'abord, Russes et Britanniques, notez-le bien, nous ont déjà fait le coup. Des empoisonnements d'opposants russes sur le sol britannique, déjà vu. Notamment avec l'affaire Litvinenko en 2006. Des expulsions mutuelles de diplomates, déjà vu. Et à plusieurs reprises. En gros, ça arrive tous les 10 ans entre Londres et Moscou depuis un demi-siècle. À chaque fois, c'est le même topo, accusation d'espionnage. Ajoutons à cela une tripotée de contentieux. Les deux pays s'accusent mutuellement d'ingérence militaire. Les Britanniques soupçonnent les navires russes de s'introduire en mer du Nord. Les Russes ne supportent pas que les Britanniques aient renforcé leur contingent en Estonie, tout près de leur frontière. Pour ne rien arranger, de nombreux oligarques et opposants russes ont trouvé refuge à Londres depuis de longues années. Et ça, à Moscou, évidemment, ça gratouille. Et puis, il y a le fond de sauce de l'histoire. Les vieux casus belli hérités du passé impérial des deux pays sur la Crimée ou l'Afghanistan. Bref, pour la faire courte, les deux pays ne peuvent pas se voir en peinture. Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
Alors, enfin, il y a quand même dans ces histoires, systématiquement, on pointe Moscou.
Ben oui, parce que c'est vrai que dans cette affaire Skripal, l'utilisation du Novichok, ce poison made in URSS and KGB, constitue un indice majeur. Cela dit, Là encore, avant de nous emballer, pause. Ces histoires d'empoisonnement sont moins nettes qu'il n'y paraît. Dans le cas de Skripal, on attend toujours quand même une preuve formelle de l'implication russe, ce qu'on appelle en anglais le smoking gun, le pistolet fumant. C'est éclairant aussi de regarder les cas précédents. 2006, donc empoisonnement à Londres de l'ex-espion russe devenu opposant, Alexandre Litvinenko, le tout au polonium, une substance radioactive. Étrangement, l'autopsie n'est pas rendue publique. Il faudra attendre 10 ans, pour que la commission d'enquête rende son rapport désignant Moscou. 2013, mort à Ascot, tout près de Londres, du principal opposant à Poutine, Boris Berezovsky, la police britannique parle d'un suicide. Un an plus tard, la justice évoque finalement l'hypothèse d'un meurtre et on en reste là. Troisième cas évoqué aujourd'hui par le site d'information BuzzFeed, celui d'un autre opposant, Alexander Peripilichny. Crise cardiaque en plein jogging en 2012 dans le Surrey, au sud de Londres. RAS, dit la police britannique. En fait, certains spécialistes des services estiment que Londres a tendance à freiner ses enquêtes de peur qu'elles ne dissuadent les milliardaires russes d'investir à la City avec des soupçons récurrents de blanchiment d'argent.
Jean-Marc Four, pour le coup, cette fois, dans l'affaire Skripal, Londres n'a pas traîné et monte en régime tout de suite. Alors pourquoi ?
Ça va plus vite que d'habitude et c'est ça qui doit nous interpeller. Ne soyons pas naïfs, ça sent l'instrumentalisation politique. Theresa May, d'abord. Elle trouve là une bonne occasion de resserrer ses troupes et elle en a bien besoin vu la pagaille dans ses rangs sur le Brexit. Ça marche, le parti conservateur fait bloc derrière elle. Avec en plus l'appui assuré de la presse populaire qui déteste la Russie. Le célèbre Sun titre ce soir « We've Vlad enough ». Jeu de mots qui veut dire à la fois « on en a assez » et « on en a assez de Vlad », Vladimir Poutine. Deuxième objectif de Theresa May, obtenir l'appui des Européens fâchés par le Brexit. Là, ça marche coup-ci, coup-ça. En Allemagne, le président de la Commission des Affaires étrangères en a profité pour dénoncer, je cite, « les capitaux russes d'origine douteuse, tiens, qui sont présents à Londres ». En face, Vladimir Poutine a lui aussi tout intérêt à la crise. Il joue à nouveau l'homme fort à 4 jours du scrutin de dimanche. Et par la même occasion, il teste le niveau de solidarité des Occidentaux. Jeu de rôle donc, avec un risque. Parfois, les jeux de rôle deviennent incontrôlables et se transforment en vraie crise internationale.
Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers, à réécouter sur le site de l'émission Un jour dans le monde.